Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue du grain à moudre d'été. Ce soir, quelles leçons tirées de l'affaire Vincent Lambert ? L'information est tombée hier matin, peu après 9h. Vincent Lambert est mort 9 jours après l'arrêt des traitements à l'hôpital de Reims et 11 ans après un accident de la route qui l'a plongé dans le coma. Cette situation tragique a déchiré la famille de Vincent Lambert. Ses parents ont voulu le garder en vie. Sa femme et son neveu, eux, disaient que Vincent n'aurait pas voulu vivre dans cet état et demander l'arrêt des traitements. Un différend qui a été porté devant la justice. La bataille a duré 6 ans. Une bataille aux ressorts complexes, humains, médicaux donc, mais aussi éthique et politique. Elle a fasciné les médias qui s'en sont emparés et qui ont fait de ce cas une affaire paradoxale, à la fois singulière et collective, une affaire de famille et de société qui a pesé sur le champ public, notamment en 2015, au moment où était discutée et rédigée la loi sur la fin de vie, la loi Claeys-Leonetti, une affaire qui pourrait encore peser à l'avenir dans les débats. D'où cette question ce soir, quelles leçons tirer de l'affaire Vincent Lambert ? Pour y répondre, trois invités. Frédéric Guérimand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médecin, professeur de médecine palliative, chef de service à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. Jean-René Binet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit privé à l'université Rennes 1. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Armorique. Lou Bémont-Senneville, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, chef de la rubrique bioéthique au journal La Croix. Vous avez largement suivi l'affaire Vincent Lambert. Affaire qui est à la une aujourd'hui de votre journal.
C'est un soulagement évidemment, c'est pas... ça remet les choses dans l'ordre en fait, c'était ce qu'on attendait depuis des années, on y était prêt depuis des années. Là c'est un peu le rationnel qui prend le dessus finalement. Vincent il était en état végétatif, il n'aurait pas voulu vivre comme ça. Par respect pour lui, il fallait arrêter de le maintenir en vie dans cet état et maintenant il n'est plus maintenu en vie dans cet état. Et il a pu partir dans les meilleures conditions possibles à l'heure actuelle, mais il a quand même pu partir. Et là, j'espère qu'il repose en paix.
C'est une délivrance pour Vincent Lambert, car la fin a vraiment été horrible pour lui, d'ailleurs, comme pour les proches qui l'ont vu dépérir, puisque la mort qui lui a été infligée était quand même une mort par déshydratation et par dénutrition. Les parents et les frères et sœurs ont vécu des moments très difficiles, l'ont vu gémir et souffrir. On voit que la loi de l'unité n'est absolument pas adaptée pour des patients comme Vincent Lambert qui était simplement gravement handicapé.
Voilà, pour commencer, deux réactions à la mort de Vincent Lambert, deux réactions opposées, vous l'avez compris, celle de l'avocate des parents de Vincent Lambert, Claire Lebray-Desachets, et celle de François Lambert, le neveu de l'infirmier décédé hier. Nouveau signe d'une famille déchirée, on va y revenir. Deux autres avocats de parents des parents parlent, eux, de crimes d'État, on en parlera aussi un peu plus tard. Avant cela, vous trois qui avez suivi la bataille autour du cas de Vincent Lambert, bataille médicale, bataille judiciaire, bataille médiatique, quel est votre sentiment général au lendemain de la mort de Vincent Lambert? Lou Bémont-Senneville.
C'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est une affaire qui a été tellement longue, tellement complexe. C'est 30 procédures judiciaires, plus de 30 procédures judiciaires. Voilà, c'est un entremêlement de dimensions éthiques, familiales, judiciaires, etc. Peut-être que je peux répondre en tant que journaliste, c'est une affaire qui a été exceptionnel d'un point de vue médiatique, c'est-à-dire que nous, les journalistes, nous nous sommes pris de passion pour chacune des étapes de ce feuilleton judiciaire, même si j'aime pas employer le mot feuilleton en l'occurrence. Alors, on peut se demander pourquoi, à la fois il y avait une appétence des confrères et de moi-même, enfin des journalistes, et en même temps, les parties, c'est-à-dire le neveu et l'épouse d'un côté, et de l'autre côté les parents, ont joué de cette médiatisation, c'est-à-dire qu'à chaque étape, ils ont voulu, communiquer. Je ne les blâme pas, mais en tout cas, ça a fait partie de leur stratégie pour pouvoir impliquer la société tout entière dans ce drame familial. Et c'est comme ça que ce drame familial est devenu un débat national.
On en reparlera de cette dimension médiatique avec vous en fin d'émission. Quel sentiment général de votre côté, Frédéric Guérimand?
Quelle parole oser ce soir suite à cette situation-là? Est-ce que ça serait pas plutôt la place du silence? En tout cas, s'il y a une parole, et du fait de la médiatisation, il y a forcément une parole. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que les paroles qui soient dites, au moins en cette période, soient des paroles d'apaisement, d'apaisement, on peut l'espérer, familial, d'apaisement social aussi, vu tous les débats qu'il y a eu autour, d'apaisement aussi, et je pense beaucoup aux équipes, avec tout ce que les équipes soignantes ont eu comme pression ces dernières années, ces derniers mois et ces derniers jours où ça s'est accéléré, pour mettre en valeur surtout aussi que cette équipe qui a forcément, cette équipe a travaillé dans la singularité de cette situation et que le pire qui pourrait arriver, c'est de vouloir généraliser à partir de cette situation singulière. Et d'emblée, j'aimerais aussi dire cela.
Jean-René Binet, quel sentiment gardez-vous de ces 11 années et de ces 6 années de procédure judiciaire ?
Eh bien, un peu comme vos précédents intervenants, j'éprouve des sentiments mêlés parce que c'est une terrible affaire qui a ému au-delà des familles, la société tout entière. Et puis, c'est une affaire qui est emblématique d'une situation qui, malheureusement, est trop complexe pour trouver des solutions simples dans une loi qui est nécessairement générale. Et d'une certaine manière, cette douloureuse affaire, cette terrible affaire Vincent Lambert a mis à l'épreuve la loi et a permis peut-être aussi à la société de se rendre compte que il ne fallait pas tout attendre de la loi, qu'il y avait nécessairement des parts obscures dans toute législation, qu'il fallait peut-être l'admettre. Et faire confiance à ceux que la loi a désignés comme étant ceux qui doivent prendre la décision en la matière, c'est-à-dire les médecins, pour qu'ils le fassent dans le respect des procédures prévues et de l'intérêt de leurs patients. Mais évidemment, un jour comme aujourd'hui, on ressent de la tristesse et puis beaucoup de compassion pour la famille qui est éprouvée par une terrible affaire.
Évidemment. Avant d'en venir aux leçons, quelques repères chronologiques avec vous, Lou Bémond-Senneville, parce que cette affaire, on l'a dit, est longue. Hein. Ça fait 11 ans que Vincent Lambert a eu cet accident de voiture, 6 ans donc de procédure judiciaire. Quels sont les principaux événements de cette affaire sans trop entrer dans les détails?
Alors en fait, bon, l'événement initial, si on peut dire, c'est évidemment cet accident de voiture qui a lieu lors d'un trajet professionnel de Vincent Lambert, qui à l'époque est infirmier dans un service de psychiatrie. Il a cet accident de voiture en 2008 et il est hospitalisé. Et l'affaire devient vraiment une affaire en avril 2013, lorsque le premier médecin qui prend en charge Vincent Lambert, Éric Carrigé, va initier un arrêt de traitement après une procédure collégiale. Il se trouve qu'à l'époque, les parents sont peu présents auprès de Vincent Lambert, et donc qu'Éric Carrigé, et il l'a admis après coup avoir commis une faute, eh bien, il omet d'informer les parents.
D'intégrer les
parents dans cette décision. Les parents le découvrent un peu par hasard, attaquent cette décision, remportent ce premier procès, et on entre là dans une bataille juridique qui va durer jusqu'à la fin juin, avec toute une série de recours.
Jusqu'au mois dernier,
Avec toute une série de recours, exactement, qui impliquent les plus hautes juridictions françaises et européennes, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de cassation, Conseil d'État, qui, à plusieurs reprises, vont se prononcer sur cette affaire. Donc, et avec trois médecins qui se sont succédés dans ce service de soins palliatifs du CHU de Reims où Vincent Lambert était pris en charge.
L'affaire est longue, donc pas tout à fait terminée d'ailleurs. Une plainte a été déposée pour homicide involontaire, plainte déposée par les parents. Une autopsie est menée aujourd'hui sur le corps de Vincent Lambert, une autopsie qui a été justifiée hier par le procureur de la République de Reims.
Ne pas ouvrir d'enquête aurait pu être interprété comme un soutien apporté au personnel soignant, certains ce matin ayant parlé de crime d'État. Ouvrir une enquête du chef de meurtre aurait également pu être interprété comme étant la condamnation a priori du processus déclenché dans le cadre de la loi Leonetti. L'enquête en recherche des causes de la mort est à la fois la plus neutre qui existe dans notre arsenal procédural pénal et celle qui permet de procéder aux investigations utiles et de parvenir à la manifestation de la vérité judiciaire. J'ai également souhaité ouvrir cette enquête pour éviter qu'à la suite d'une éventuelle plainte pour meurtre, je sois contraint de faire procéder à l'exhumation du corps de M. Lambert, élément d'une particulière violence, dans un dossier où la logique de l'affrontement judiciaire n'aura jusqu'à ce jour épargné personne.
Une enquête en recherche des causes de la mort pour éviter l'exhumation, une éventuelle exhumation du corps de Vincent Lambert. Voilà ce que disait le procureur de la République de Reims hier soir. Loumé Montsenville, encore une fois, est-ce qu'on est là vraiment bientôt à la toute fin de cette affaire judiciaire, du volet judiciaire de l'affaire Vincent Lambert?
C'est très difficile de se prononcer sur cette question. Ce qui est sûr, c'est que l'autopsie a été réalisée ce matin. Il y a encore donc une plainte qui est en cours. Après, est-ce que les obsèques de Vincent Lambert vont pouvoir être organisées dans une forme de concorde, ou au moins une forme de concorde familiale? Ou est-ce que les protagonistes vont retourner devant les tribunaux pour l'organisation de ces obsèques? Ça, on ne le sait pas. Il faut savoir qu'à partir du moment où une personne est morte, la personne qui était sa tutrice, c'est-à-dire en l'occurrence Rachel Lambert, l'épouse de Vincent
Lambert,
la tutelle tombe. Donc ça veut dire que ce n'est pas Rachel Lambert qui peut prendre une décision seule pour ses obsèques. Donc il y a forcément un accord familial à trouver. Donc voilà, c'est compliqué de dire qu'on est au bout, tout au bout des procédures.
Vous êtes d'accord avec ça, Jean-René Binet ?
Oui, je crois que la logique d'affrontement dans cette affaire pourrait se retrouver, se reporter ensuite sur la question des obsèques. Mais s'agissant de l'organisation de celle-ci, la loi est un peu plus claire, dans la mesure où si chaque personne, toute personne peut décider des modalités de sa sépulture, ses funérailles, les hypothèses de conflit se règlent la plupart du temps en donnant priorité à la parole du conjoint survivant ou du concubin survivant. Et ce n'est qu'en cas de mésentente notoire entre celui-ci et le défunt que ce sont les parents qui décident. Donc là, je crois qu'il y a, sur la question des funérailles, des choses qui sont mieux établies en jurisprudence. S'agissant de la question de la fin de vie, qui est évidemment différente, ou de la décision d'arrêt de traitement, eh bien, la loi ne permet pas une telle hiérarchisation des avis, et c'est ce qui a conduit notamment à cette affaire.
Nous parlons des leçons. Quelles leçons tirer de l'affaire Vincent Lambert sur France Culture dans Du grain à moudre d'été? Une affaire longue de 11 années, donc 11 ans après l'accident de Vincent Lambert, une trentaine de décisions de justice, vous le disiez tout à l'heure, Loubet Montsenville, des dizaines et des dizaines de débats dans les médias, de reportages, de témoignages. Bref, les leçons sont nombreuses. On va en parler. Commençons par les leçons médicales. Quel était réellement l'état de Vincent Lambert? C'est une question qui est au centre de cette affaire. S'agit-il d'un état possible relationnel, un état de conscience minimale ou un état végétatif chronique? Il y a eu débat. Pourquoi, Frédéric Guirimand, n'y a-t-il pas eu de consensus médical autour du cas de Vincent Lambert?
Alors, c'est une situation qui est extrêmement complexe et moi je n'ai pas approché le dossier, donc je ne risquerai pas une parole médicale sur ce sujet-là. Ce qu'on peut dire, c'est que il était en situation d'un état végétatif chronique, me semble-t-il, d'après ce que j'ai pu lire, mais j'en ai pas eu les informations en direct.
C'est le résultat des dernières expertises.
Hein. Et ça, c'est le résultat des dernières expertises, du fait notamment de centres qui sont les plus spécialisés en Europe sur ce sujet-là, qui est le Coma Center de Liège. Donc c'est l'équipe de Liège qui a été notamment en charge de cette expertise. Ce que l'on peut dire simplement sur un plan médical, finalement, ce qui est important d'un point de vue même du vocabulaire, c'est on discute énormément, était-il en fin de vie, était-il pas en fin de vie, etc. Ou était-il handicapé, n'était-il pas handicapé? Je crois que le mot le plus sur lequel on pourrait tous s'accorder, c'est celui, il était maintenu artificiellement en vie. Maintenu artificiellement en vie, pourquoi? Parce qu'il avait une nutrition artificielle et une hydratation artificielle. Il n'était pas alimenté, il ne recevait pas d'aliments, il recevait des nutriments via, non pas la bouche, puisqu'il ne pouvait plus déglutir, via une sonde nasogastrique. Donc à partir de ce moment-là, il était maintenu artificiellement en vie, ce qui ne veut pas dire du tout on continue ou on arrête de façon générale. C'est après, à partir en se mettant d'accord sur ce vocabulaire, qu'on va pouvoir commencer à réfléchir.
Est-ce qu'il existe d'autres querelles médicales, si on peut employer cette expression, autour de cas similaires en France? Parce qu'il y en a des cas, en tout cas, certains médecins ont parlé de cas similaires. 1500 personnes cérébro-lésées en France, Frédéric Grimand.
Attention, toutes les patients, 1500, 1700 patients cérébro-lésés en France, ne donnent pas l'occasion d'avoir des affaires Vincent Lambert, bien heureusement. La loi...
Mais est-ce que ces cas donnent quand même parfois l'occasion de, encore une fois, de querelles médicales ou de différences de diagnostic ?
Différence de diagnostic, je ne sais pas, bien sûr, ça pourrait arriver, mais finalement, la question qui est posée, c'est celle de l'incertitude dans laquelle on peut être à un moment donné, l'incertitude de savoir, justement, chez ces patients qui sont maintenus artificiellement en vie, qu'est-ce qu'il est raisonnable et non ou déraisonnable de faire. Ça, c'est le point absolument fondamental. C'est-à-dire que c'est dans cette situation, non pas générale sur les patients cérébro-lésés en France, etc. Là, on va jamais pouvoir raisonner comme ça. Et heureusement, la loi ne nous oblige pas à raisonner comme ça. Il ne faut pas poursuivre ni arrêter systématiquement une nutrition artificielle et une hydratation artificielle. Il faut, dans un débat éthique, dans une réflexion éthique, en équipe, connaissant au mieux, au plus près de ce que l'on peut savoir de la personne, c'est-à-dire la recherche par tous les moyens de ce que pourrait dire la personne s'il pouvait s'exprimer, de ce qu'il aurait pu dire, voilà. Et ça, c'est la question absolument fondamentale. Comment agir dans cette situation-là ?
On va y venir. Lou Bémont-Senneville, sur cette question médicale, encore une fois, et de différence de diagnostic, en tout cas de querelle de diagnostic autour du cas de Vincent Lambert.
Alors, la dernière expertise médicale ordonnée par la justice date de novembre 2018. Et dans cette expertise, il est fait état d'une personne en état végétatif chronique, EVC. Voilà, Vincent Lambert, si on en croit cette expertise, a oscillé entre un état post-relationnel, c'est-à-dire avec très peu de contacts possibles, de relations possibles, et un état végétatif. Ce sont deux états qui sont voisins, qui sont ce que les médecins appellent, mais le docteur Guérimand me contredira si ce n'est pas le cas, des états de conscience altérés. Donc voilà, où la conscience est altérée et où en réalité les médecins ne savent pas très bien évaluer c'est ça, en fait. L'état de conscience. Voilà, c'est donc il y a quand même une part d'inconnu dans cette.
Vous confirmez, docteur Guérimand ?
Oui, tout à fait. Ça correspond à ça sur le plan neurologique.
De la définition de son état, parce que c'est important, hein, et vous l'avez déjà abordé, Frédéric Guérimand, découlait celle des soins qui pouvaient lui être prodigués, des soins ou des traitements médicaux.
Des soins ou des traitements. Et là, on est vraiment sur une frontière qui n'est pas facile à comprendre. L'alimentation, c'est un soin. Donner à boire à un patient, c'est un soin. Prendre soin du corps, faire des soins de bouche, faire des massages, faire du nursing, tout ça, c'est des soins. Et ces soins ne sont jamais arrêtés et n'ont jamais été arrêtés dans cette situation, dans la situation dont nous parlons. Il en est autrement des traitements. Et les traitements, la différence entre les traitements et les soins, c'est qu'un traitement peut être arrêté alors qu'un soin ne peut pas être arrêté. S'agit-il d'un soin, s'agit-il d'un traitement lorsque l'on parle d'une nutrition artificielle ? La nutrition artificielle, c'est vraiment nourrir la personne avec des nutriments. Ce ne sont pas des aliments, on ne peut pas lui donner de la purée ou d'autres aliments. On lui donne des nutriments qui sont d'ailleurs issus de l'industrie pharmaceutique. Et c'est par un moyen qui n'est pas un moyen physiologique, qui est un moyen non physiologique, qui est une sonde nasogastrique. Et c'est à partir de là que on met la frontière entre le soin et le traitement.
Jean-René Binet.
Oui, cette distinction entre le soin et les traitements est une distinction très très importante à poser, car ce que permet la loi depuis 2005, c'est un arrêt des traitements, et comme ça vous a été très bien dit, les soins quant à eux doivent être maintenus. Et s'agissant de la possibilité d'interrompre l'alimentation et l'hydratation artificielle, il y a eu un débat qui a trouvé une solution dans les premières décisions qui ont été rendues, et notamment la décision du Conseil d'État rendue en 2014, qui a estimé que l'hydratation comme l'alimentation artificielle devait être considérée comme des traitements et donc pouvait être suspendue. Et c'est ensuite ce que le législateur a inscrit très explicitement dans le Code de la Santé publique par la loi Claeys-Leonetti, la loi du 2 février 2016. Donc savoir identifier ici l'alimentation et l'hydratation comme des traitements permet de savoir s'il est possible de les arrêter. C'est très important.
Frédéric Guérimand.
Je reprends juste. Pour moi, le bon vocabulaire, c'est de parler de nutrition. Ce sont des nutriments. Je ne parle pas d'alimentation, parce que l'alimentation, ce sont des aliments que l'on ingurgite par la bouche. C'est juste une question de sémantique, mais oui. Ça me semble important dans ce débat où on essaye de clarifier les choses, puisque ça peut permettre quand même d'éclaircir la pensée.
Donc si je vous entends bien, messieurs, depuis le début de l'émission, ce que vivait finalement Vincent Lambert, c'était de l'acharnement thérapeutique, ou en tout cas une obstination déraisonnable, hein, si on prend les termes exacts de la loi.
Alors,
Frédéric Guérimand.
Pas du tout. Pas du tout, en ce sens que, d'un point de vue général, on ne peut pas dire ça. C'est dans la singularité de cette situation, en réfléchissant à ce qui, à ce qu'est un patient donné, que l'on peut dire, là, on est dans de l'obstination déraisonnable, qu'il n'aurait pas voulu, ou là, on n'est pas dans de l'obstination déraisonnable. Et là, la frontière est vraiment très claire. C'est-à-dire que nous sommes dans une tension éthique où les choses ne sont ni blanches ni noires. Nous sommes dans une zone de gris et c'est notre métier au quotidien, notamment dans les unités de soins palliatifs, pour ces décisions-là ou d'autres décisions plus ou moins importantes, que nous sommes toujours en tension sur, c'est pas il faut faire ci ou il faut faire ça, nous sommes dans, il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, nous sommes dans la visée du bien. Et pour réfléchir sur cette visée du bien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire de bien ou de moins mal, eh bien, ça se passe en équipe. Et c'est d'ailleurs toute la richesse, j'allais dire, de la loi française, qui est quand même d'organiser le débat éthique à partir d'un certain cadre et de dire, attendez, c'est pas de dire, là c'est déraisonnable, là c'est raisonnable, ça sera heureusement jamais la loi qui le dira, mais elle confie aux équipes le soin de délibérer pour, avec tous les éléments qu'ils ont à leur portée, notamment bien évidemment s'il y a eu des directives anticipées, bien évidemment s'il y a eu une personne de confiance, bien évidemment si la famille est au clair avec tout le monde. Voilà. Et dans des cas totalement exceptionnels et c'en est un, eh bien là, il n'y a rien pour guider cette discorde familiale. Et donc, il y a une décision qui est prise à un moment parce que les choses ont plus pesé dans la balance d'un côté que de l'autre.
Lou Bémont-Senneville, puis Jean-René Binet.
Alors effectivement, en fait, la particularité là, c'est que l'obstination déraisonnable, elle se définit aussi en fonction de la volonté de la personne ou de ce qu'on en sait. Et il se trouve que Vincent Lambert n'avait laissé ni directive anticipée, dont on va peut-être parler tout à l'heure, si j'ai bien compris, ni personne de confiance, n'avait pas désigné de personne de confiance. Et donc, tout au long des procédures, pendant 6 ans, et encore lors de la dernière audience au Conseil d'État qui a eu lieu il y a quelques semaines, les familles exposaient, enfin les familles, c'est un lapsus terrible, les deux parties de la famille exposaient chacune eh bien, ce qu'elles avaient compris de la volonté de Vincent Lambert. Le neveu et son épouse disant Vincent a toujours dit qu'il ne voulait jamais vivre comme ça, qu'il n'aurait jamais voulu vivre comme ça. Et les parents, et notamment Viviane Lambert,
sa mère
rapportant des anecdotes, notamment au moment de ses stages infirmiers, disant qu'il avait été touché par telle ou telle situation, et donc montrer qu'il était en empathie avec des personnes aussi en situation d'extrême faiblesse. Et donc il y a eu en fait toute une bataille judiciaire autour de la détermination de la volonté de Vincent Lambert.
Jean-René Binet.
Oui, et ce qui me semble également important de rappeler, mais ça a déjà été dit, c'est véritablement que en la matière, il faut vraiment penser au cas par cas. Et c'est ce que le Conseil d'État, dans sa dernière décision, celle du 24 avril dernier, affirme, c'est-à-dire que il dit très clairement que la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou à plus forte raison de perte d'autonomie, la rendant tributaire d'un tel mode d'alimentation, ne saurait caractériser par elle-même une situation dans laquelle la poursuite du traitement apparaît injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable. Il faut donc faire une appréciation au cas par cas, et cette appréciation, le Conseil d'État invite à la faire au regard de circonstances médicales et non médicales. Les circonstances médicales, c'est l'expertise qui a révélé une situation dégradée ou risquant de se dégrader pour Vincent Lambert, et puis les situations non médicales, c'est ce dont on était en train de parler, c'est la volonté telle qu'elle peut être rapportée, témoignée par les membres de la famille.
Rapidement, Frédéric Guérimand, après avoir parlé donc de ces enseignements en quelque sorte médicaux de l'affaire Vincent Lambert, quelles leçons vous en tirez, vous ? Est-ce qu'il y a des choses à changer, par exemple ? Ou des choses auxquelles vous devriez être beaucoup plus attentif ?
Là, on est sur une évolution du droit qui me semble une bonne évolution du droit. Et qui est que l'on sort d'une sorte de paternalisme médical qui dit, où on confie simplement au médecin et le médecin dit « je sais ce qui est bien pour vous ». Et depuis la loi Kouchner de 2002, confirmée par la loi Leonetti de 2005 et encore réaffirmée bien sûr dans la loi de 2016, le principe de base c'est de rechercher le patient prend avec les professionnels de santé les décisions concernant sa santé. C'est-à-dire que le patient est au centre des décisions de la médecine et de la santé. Et quand le patient ne peut plus s'exprimer, quelque part s'acharner à rechercher quelle serait la volonté de la personne. Ça, c'est le centre de la loi. Après, notre loi tourne autour de trois piliers. L'interdit de l'euthanasie, qui est encore
qui existe en France, encore, ouais.
Mais deux interdits majeurs, qui sont l'interdit de l'obstination déraisonnable, et donc, voilà, là, on est au cœur de la situation, et le troisième interdit, c'est l'interdit de la souffrance, que l'on oublie trop. Et l'interdit de la souffrance, c'est vraiment l'interdit, en tout cas, de l'indifférence à la souffrance d'autrui. Ça, c'est un point clé de la loi. En tout cas, voilà, il y a des choses qui sont extrêmement bonne dans cette loi. Maintenant, le tout juridique est un petit peu aussi, apporte des limites.
Effectivement, on y viendra. Vous parliez tout à l'heure, Lou Bémont-Senneville, des directives anticipées. C'est aussi un des points clés de cette affaire Vincent Lambert. Il n'y en avait pas, donc d'où aussi cette querelle, ce différend, cette dispute familiale. Vincent Lambert voulait-il vivre dans cet état? Est-ce que qu'avec cette affaire, le nombre de directives anticipées a augmenté? Est-ce qu'on sait ça? Est-ce qu'on sait déjà le quantifier?
En fait, il y a assez peu de chiffres sur le nombre de Français qui ont rempli leurs directives anticipées. Il y a des chiffres qui font état de 13% pour les personnes de plus de 50 ans, voilà, qui sont a priori non pas les plus concernées, mais en fait les personnes qui y pensent le plus, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on pense plus aux conditions de sa fin de vie, ce qui semble assez logique. Ce qui est sûr, c'est que ces dernières semaines, il y a eu un mouvement quand même d'intérêt très fort envers les directives anticipées, Et avec des connexions très fortes, notamment aussi du ministère de la Santé qui met à disposition un modèle de directive anticipée.
Ça, c'est important.
Et avec une évolution qui date du mois de mai dernier. Depuis mai, les directives anticipées peuvent être enregistrées directement dans le dossier médical partagé, qui est un peu le dossier médical virtuel de chacun en ligne. Et donc, c'est une manière de les stocker pour que les médecins puissent y avoir accès.
Ces directives anticipées, Frédéric Guérimont, est-ce qu'elles pourraient tout régler finalement ?
Elles ne règlent pas tout, mais elles ont un intérêt majeur, non pas tant par leur contenu que d'inciter toute personne à avoir dans un colloque singulier avec son médecin traitant, un dialogue concernant la fin de vie. Selon que l'on soit d'ailleurs atteint d'une maladie grave ou pas. Et d'ailleurs, on a deux formulaires différents de directives anticipées en la matière. En fait, cette discussion entre un médecin et une personne qui n'est pas forcément malade concernant la fin de vie, ce dialogue n'existe pas dans la vie de tous les jours. On a rarement une discussion de ce sujet-là. Et c'est pourtant quelque chose de fondamental. C'est là le point crucial que peuvent apporter ces directives anticipées. Après, bien sûr, la façon dont on va les rédiger, c'est beaucoup mieux de les rédiger avec un professionnel de santé, ça me semble absolument essentiel. Et ce qu'il faudrait envisager dans notre évolution, par exemple, dans l'évolution de la T2A, par exemple, c'est de pouvoir...
La T2A, c'est...
Tarification à l'activité, c'est-à-dire on code les actes, etc. C'est comme ça qu'on fait dans les hôpitaux ou dans les consultations. Ça peut permettre, ça doit pouvoir permettre d'avoir une consultation plus longue, par exemple, en ville, et donc d'avoir une tarification spéciale reconnue sur les directives anticipées. C'est peut-être une piste à poursuivre.
Quelle leçon tirer de l'affaire Vincent Lambert? C'est la question du grain à moudre d'été ce soir sur France Culture. Trois invités pour en parler. Frédéric Guérimont, médecin, professeur de médecine palliative. Jean-René Binet, professeur de droit à Rennes, et puis Lou Bémond-Senneville, chef de la rubrique bioéthique au journal La Croix. Parlons de justice maintenant, parce que ça a occupé une large partie de cette affaire Vincent Lambert, qui d'ailleurs, à certains moments, a précisé le droit. C'est ce que vous expliquez dans votre article dans La Croix, Lou Bémond-Senneville, ce matin, à travers une trentaine de décisions de justice rendues en 6 ans, donc. Et Jean-René Binet, vous en avez donné un exemple tout à l'heure avec ce qu'avait dit le Conseil d'État sur la nutrition et l'hydratation. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ?
Oui, alors il y a certains autres éclairages qui ont été apportés par les décisions. Et dans cette dernière décision du Conseil d'État, ce qui est important, c'est que la question du cadre factuel dans lequel peut se poser la question des traitements a été précisé par le Conseil d'État. C'est-à-dire que si c'est au médecin de prendre la décision, il ne peut pas la prendre en dehors d'un contexte qui serait le contexte décrit par l'article L1110-5-1 du Code de la Santé publique et qui nécessite donc cette conjugaison des éléments médicaux et non médicaux. Ça semble important. Ce qui est important aussi, c'est ce rappel, mais je l'ai déjà dit, de devoir réfléchir au cas par cas, sans pouvoir se contenter d'une situation décrite de manière abstraite ou générale.
Oui, cela revient beaucoup dans vos propos. Il faut bien se garder de toute généralisation, même si la loi a une vocation générale. La loi ne peut pas répondre évidemment à tous les cas. Lou Bémond-Senneville, il y a aussi quelques jours, fin juin cette année, donc, une décision de la Cour de cassation qui dit que il ne faut pas faire du droit à la vie une liberté individuelle. Et ça aussi, en quelque sorte, c'est une précision apportée par l'affaire Vincent Lambert.
Alors en fait, pour comprendre cette décision, il faut remonter quelques jours en avance, quelques jours avant cela, lorsque le 20 mai, la Cour d'appel de Paris ordonne aux médecins de reprendre la nutrition et l'hydratation artificielle de Vincent Lambert qui avait été arrêté le matin même. Et pour cela, elle s'appuie sur une argumentation qui tient à dire que le droit à la vie est le principe fondateur de tous les autres principes d'un certain nombre d'autres libertés individuelles. Et donc c'est dans ce cadre que la Cour de cassation va être amenée à se prononcer sur ce point précis du droit à la vie. Et donc en fait la Cour de cassation dit le droit à la vie ne peut pas être reconnu comme étant une liberté individuelle au sens d'une liberté reconnue dans l'article 66 de la Constitution. Et François Molins, qui est le procureur général de la Cour de cassation, lorsqu'il requiert cette décision lors de ses réquisitions, il dit voilà, il met en garde les juges en disant si le droit à la vie était reconnu comme tel, ce serait non seulement une menace pour le droit existant concernant l'IVG notamment, mais aussi une menace pour la loi Leonetti Claes elle-même.
Jean-René Binet.
Oui, sur ces deux dernières décisions, la Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est surtout une question de compétence des deux ordres juridictionnels que sont l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Ici, si la Cour d'appel de Paris s'est reconnue compétente, c'est parce qu'elle a estimé qu'il y avait une voie de fait, et la voie de fait, eh bien, elle l'a établie parce qu'il y avait une atteinte, selon elle, à cette liberté individuelle qu'est le droit à la vie. Et la Cour de cassation dit non, ce n'est pas une liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, donc c'est pas une voie de fait, et si c'est pas une voie de fait, les juridictions judiciaires sont pas compétentes, et donc c'est simplement les juridictions administratives, tribunal administratif, Conseil d'État, qui sont compétentes pour statuer sur cette décision. Là, c'était vraiment une question de détermination des compétences entre les deux ordres juridictionnels français.
Lou Bémond-Senneville a évoqué aussi à cette occasion la loi Claes-Leonetti. On en a déjà parlé, vous en avez déjà parlé depuis le début de l'émission. Est-ce que cette loi, parce que la question se repose encore une fois, est suffisamment claire et suffisamment précise? Je me tourne vers vous, Frédéric Guérimand.
Écoutez, la loi Claes-Leonetti donne la liberté, confie aux équipes soignantes et à leur sagesse le soin de prendre les décisions qu'il s'impose lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté. La loi Claeys-Leonetti est extrêmement claire lorsque le sujet est capable aussi d'exprimer sa volonté. On voit bien comment peut-être la limite de la loi Claeys-Leonetti que je vois aujourd'hui dans ma pratique clinique. C'est par exemple lorsque l'on va évoquer les questions de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès à la demande du patient. Il y a des critères qui sont extrêmement stricts posés par la loi, qui sont par exemple la question dans ces situations-là, qui ne sont pas celles du cas dont on parle ce soir, mais si on parle de la loi Claeys-Leonetti en général, qui sont un pronostic réservé à court terme, une souffrance réfractaire. Par exemple, la question du pronostic réservé à court terme est discutée, et bien sûr discutée comme toutes les autres critères de cette loi. Mais en mettant comme ça des critères dans la loi, les équipes auraient plutôt tendance à cocher des cases pour dire oui, il y a le critère numéro 1, le critère numéro 2, etc. Alors qu'en fait, la question n'est pas du tout là. La question est de comprendre, analyser, écouter ce patient qui est en demande de sédation, par exemple, profonde et continue maintenue jusqu'au décès, et de pouvoir organiser un débat, et un débat éthique, là encore, dans une délibération éthique, puisque c'est à l'équipe soignante de dire ce qu'il en est. Et donc, le risque du trop législatif est peut-être péjoratif pour la prise en charge des patients, notamment dans ces tensions éthiques qu'il existe dans ces prises de décision.
Jean-René Binet.
Oui, alors toujours sur les apports des décisions, et puis les insuffisances qu'on a pu relever à l'égard de la loi, certains prétendent que il est dommage que la loi n'hiérarchise pas les différents protagonistes en indiquant que, eh bien, en cas de conflit familial, il faudrait écouter la parole plutôt de l'épouse ou plutôt des parents, etc. Et moi, je crois que ce qui est important, c'est de bien avoir à l'esprit que pour la loi Claeys-Leonetti, enfin c'était déjà la même chose dans la version de 2005, c'est au médecin qu'il revient de décider, c'est donc lui qui va assumer la responsabilité, et je parle pas simplement de responsabilité juridique, hein, responsabilité morale, professionnelle de la décision qui sera prise. Cette décision, il la prend après concertation, dans le cadre de la procédure collégiale, mais à la fin, c'est lui qui décide. Et parce que c'est lui qui décide, eh bien, il serait difficile de hiérarchiser les avis des uns ou des autres, et je parle bien ici évidemment des avis des proches ou de la famille, en mettant de côté la personne de confiance et les directives anticipées qui prévalent sur ces témoignages rapportés.
Lou Bémond de Senneville, certains demandent aussi que cette loi soit, à l'occasion de cette affaire Vincent Lambert, qu'elle soit réécrite, et notamment les partisans de l'euthanasie.
Oui, c'est une demande, effectivement. Je pense que l'opinion publique a découvert deux éléments qu'elle ignorait, notamment ces dernières semaines. Le premier élément, c'est que la loi ne concerne pas seulement les situations de fin de vie, mais concerne aussi les situations d'obstination déraisonnable. Et je pense que là, il y a un point qui n'était pas tout à fait perçu par le grand public. Et le deuxième élément, c'est que les gens ont découvert ce que c'était qu'une sédation profonde et continue, et que cette sédation pouvait être longue. Et donc, il faut expliquer, ou en tout cas les médecins de soins palliatifs l'expliquent, que cet arrêt des traitements s'est accompagné d'une sédation, c'est-à-dire de l'administration d'un produit qui fait dormir et qui empêche de souffrir. Voilà, je pense que le débat, il reprend autour de ça. Alors, moi, ce que j'observe, c'est que il y a des anti-lois Claeys-Leonetti des deux côtés. C'est-à-dire que à la fois, il y a des anti-lois.
Chacun voudrait tirer la.
Il y a des anti-lois Claeys-Leonetti du côté de ceux qui promeuvent la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, et qui se voyaient, cette loi est hypocrite, on pourrait aller plus vite. Et en même temps, il y a des anti-lois Claeys-Leonetti de l'autre côté, du côté de ceux qui disent que ce qu'on a vécu avec l'affaire Vincent Lambert constitue une euthanasie déguisée. Donc, en fait, cette loi, elle est remise en cause quand même des deux côtés. droite et à sa gauche. Il n'y a pas de connotation politique.
Politique, oui,
mais en tout cas,
que ce soit politique.
De ces deux côtés. Ouais.
Deux tribunes ont été. Il y a eu plusieurs réactions à la mort de Vincent Lambert, plusieurs tribunes, mais deux tribunes ont retenu notre attention. Celle de Michel Houellebecq, hier, dans Le Monde, une tribune assez offensive. Autre tribune offensive, celle de Emmanuel Hirsch, qui est professeur d'éthique médicale à l'université de Paris-Saclay, qui parle, lui, de déroute éthique de cette judiciarisation d'une décision de mort médicalisée. Je le cite, déroute éthique. Qu'est-ce que cela suscite chez vous, Jean-René Binet? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Écoutez, je crois qu'il faudrait demander à Emmanuel Hirsch ce qu'il veut dire exactement. Moi, je crois que malheureusement, l'affaire Vincent Lambert a révélé les limites de la loi, mais toutes les lois trouvent leurs limites. Et simplement, eh bien, la loi a pu malgré tout être appliquée, aboutir à une issue qui n'est pas une issue heureuse. La mort n'est jamais un événement heureux. Mais enfin, la loi Leonetti, Claes Leonetti, a permis d'apporter des solutions. Et comme à chaque affaire, comme le disait Lou Bémont, à chaque affaire, eh bien, on trouve des opposants à cette loi qui veulent la faire évoluer, qui poussent pour obtenir une légalisation de l'euthanasie. Ça a été le cas dès 2008, avec l'affaire Chantal Sébir, dont vous avez peut-être gardé le souvenir, et puis à chaque nouvelle affaire médiatisée, eh bien, la loi est sous pression. Je crois que le pire serait d'agir ou de réfléchir ou de modifier la loi sous pression. Laissons retomber un peu la poussière et puis toute l'émotion de cette affaire pour voir s'il convient de modifier la loi à la marge, mais à la marge seulement, parce que dans son esprit général, je crois que c'est une loi qui a fait de nombreuses fois la preuve de ses vertus.
Il nous reste un peu plus de deux minutes. Vous parliez des médias, Jean-René Binet, de la médiatisation. Quelle leçon médiatique tirée de cette affaire, Lou Bémont de Senneville? Est-ce que cette affaire aurait existé sans la caisse de résonance des médias, les médias traditionnels et des réseaux sociaux?
Non, mais comme je le disais tout à l'heure, les deux parties se sont servies des médias aussi. Donc il y a eu un mouvement dans les deux sens.
Pourquoi elle a été aussi médiatisée, cette affaire?
Alors en fait, le débat sur la fin de vie en France, il est toujours émaillé d'affaires. C'est-à-dire, on a eu l'affaire Vincent Humbert, il y a eu l'affaire Chantal Sébir, il y a eu l'affaire Vincent Lambert, il y a eu Anne Baird, il y a quelques mois, qui a été se faire euthanasier en Belgique. Voilà, il y a toujours des... C'est-à-dire que le débat de la fin de vie en France... Il est toujours, avec ses affaires singulières, ses histoires singulières, et ça fait partie des conditions pour débattre de la fin de vie.
Vous, comme médecin, Frédéric Guérimand, comment vous l'avez vécu, cette médiatisation de l'affaire Vincent Lambert?
Je l'ai vécu surtout comme une dérive sur le plan, par exemple, du vocabulaire. Quand j'entends parler d'euthanasie, rappelons ce que c'est qu'une euthanasie. Une euthanasie, ça consiste à injecter un patient à sa demande, un produit ayant pour but d'arrêter immédiatement la vie.
On en est loin.
On est très très loin. Et quand je parle de dérive, quand j'entends parler de dérive euthanasique, forcément, ce n'est pas ça. Quand j'entends parler de, il faut changer la loi pour aller vers une euthanasie, mais une loi sur l'euthanasie, c'est-à-dire quelqu'un qui demande à faire l'injection, mais n'aurait strictement rien changé dans cette situation. Il faut pouvoir le dire clairement. D'autre part, les questions, je crois qu'il faut séparer la question sociétale du débat sur l'euthanasie de la question de la souffrance du patient en fin de vie qui est en souffrance et que cette souffrance se révèle à partir d'une demande d'euthanasie.
Et vous, comme juriste, Jean-René Binet, comment vous l'avez analysé, cette médiatisation de l'affaire Vincent Lambert? Très rapidement, il nous reste quelques secondes.
Il me semble que cette médiatisation de cette affaire, elle relève d'abord de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Les médias sont présents dans de nombreuses questions. Et puis peut-être qu'elle a suscité un intérêt de la société pour une question complexe et une question dont il est important que la société s'empare, la question de la fin de l'existence et puis des décisions d'arrêt de traitement éventuel.
Merci à tous les trois. Frédéric Guérimand, médecin chef de service à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris, professeur de soins palliatifs, de médecine palliative. Lou Bémont de Senneville, merci à vous, journaliste chef de la rubrique bioéthique au journal La Croix. Merci à Jean-René Binet, professeur de droit privé à l'université Rennes 1 en duplex de Rennes. Merci à nos amis de France Bleu Armorique. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre, Marguerite Caton, Élodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation ce soir, Thomas Jost, mise en onde, Jean-Guilain Meige. Pour réécouter cette émission, l'application Radio France ou bien le site franceculture.fr.